cours de philosophie politique et religion chrétienne par le père Philippe à Rimont le 9 mars 1989.
Alors, mon père, Dieu, dans son gouvernement, regarde les personnes, tout à fait d'accord, regarde-t-il le conditionnement humain, la culture, la psychologie humaine, évidemment. Il n'y a pas d'abstraction dans la connaissance de Dieu. Il faut bien vous dire ça. La sagesse de Dieu est une sagesse d'amour pour les personnes, pleinement lumineuse et concrète. Alors ce qu'il faut, c'est comprendre l'ordre dans ses connaissances. Il ne regarde pas premièrement la culture, il ne regarde pas premièrement la psychologie. Il regarde en premier la finalité de la personne humaine, notre bonheur, notre... Vous voyez, hein, notre flèche du carquois divin. Il y a eu la vision béatifique. Voilà ce qu'on regarde. On va être Pierre ici. Pierre. C'est ça que tu regardes. Bon. Ce conditionnement de Pierre, c'est ça, c'est une intention de vie. Bienheureux les cœurs purs. C'est la purification de cette intention de vie qui se fait progressivement en nous. C'est une béatitude. C'est ça que Dieu regarde en premier lieu. Que personne d'autre ne regarde en premier lieu. Si ce n'est votre directeur spirituel. Votre père spirituel. Parce que ce n'est pas un directeur. C'est Esprit Saint qui regarde ça en premier lieu. Et celui qui est l'instrument de l'Esprit Saint regarde ça en premier lieu. Ça le fort interne, qui est le fort personnel, qui touche directement le cœur de Pierre et son intelligence, tout orienté vers ça. Bon. Ceci doit se réaliser, l'intention de vie. L'impérium doit se réaliser concrètement. Il faut passer à l'acte. Je ne prends pas l'acte de conseil, de choix, tout ça. C'est dans la même mouvance. Hein. C'est intérieur. Et ça va se passer. Ce milieu de vie. Ce milieu de vie extérieur à la culture. Cette culture, c'est un moyen en vue de la fin. C'est plus facile d'une certaine manière d'être catholique, je dis d'une certaine manière, hein, d'être catholique au Moyen-Âge, où tout est ordonné vers ça, où Saint-Louis est un roi très pieux. Je prends Saint-Louis parce que je pourrais prendre Saint-Henri. Saint-Étienne, tous les grands saints qui ont été aujourd'hui, il y en a encore de temps en temps, bien sûr, c'est plus facile que lorsque vous êtes dans une culture qui est en régression par rapport au point de vue chrétien. La différence avec l'Afrique, c'est en régression. L'Afrique tend quand même vers quelque chose de religieux. Quelque chose de religieux demeure, même si c'est quelquefois mélangé. En France, c'est une régression. En Europe, c'est une régression. C'est la laïcité. Ça fait partie du milieu. Puis vous avez un milieu intérieur, le point de vue psychologique. Et les deux milieux, le milieu interne. Le milieu interne qui a fait de la mémoire, qui fait de l'imagination, qui fait des passions, qui fait de l'expérience constante. Votre milieu interne, notre psychisme, pour l'appeler par son nom, notre psychisme, il dépend du milieu externe. Vous voyez, si tous les soirs, vous voyez la télévision, de 10h à minuit, ou de 8h à minuit, ou de 7h à minuit, notre psychisme, petit à petit, il s'appesantit. Et ça met longtemps à être purifié. Une année de vision, ce n'est pas suffisant. Bien évident. Ce n'est pas grand-chose. Des coups de balai. Pourquoi il s'est purifié? Sans reprendre au galop. Quand vous serez prophète perpétuel. Parce que vous croirez qu'à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, vous êtes dégagé de tout ça. Pas du tout. Oui, le psychisme a beaucoup plus d'importance pour nous que pour les gens du Moyen-Âge. Parce que nous vivons dans un monde artificiel. Le monde réel dans lequel on est apaise l'imaginaire, apaise les passions. Vous voyez, le pauvre, je ne sais pas, ça fait toujours plaisir de voir ça, quand on voit un homme qui revient le soir des champs. Il est pacifié. Il est fatigué, pacifié. Quelqu'un qu'il aime bien, il est là, tout entier, son imaginaire. Tandis que vous croyez que quand vous avez été 4 heures autour de la télévision, vous êtes pacifié. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous vivons ça, nous, comme les mots. Ça fait partie. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Et la religion est beaucoup plus difficile à réaliser dans un monde comme le nôtre. Autrement, je le sais. Pour vous, pour moi. C'est bien évident. Parce que ça s'est accéléré. Moi, j'ai pas connu ça. Ce temps-là, moi, je n'ai pas la télévision. Et alors, ça faisait quelque chose de beaucoup plus grave. La télévision a accéléré. Avec des imaginations, des gens. Il y avait d'autres luttes, c'est sûr. Je prends ici le terme psychique. Le psychisme, c'est vrai. Le freudisme ne pouvait pas naître dans n'importe quel milieu. Freud aurait au Moyen-Âge. Freud en face de Saint-Louis. Quand on dit un psychanalyste qu'on n'a pas de... Vrai, hein, dur, qui vit avec ses vaches, qui vit avec ses chevaux, qui vit avec la terre, quoi. Tandis que quelqu'un qui regarde la télévision, son inconscient, hein, ce que vous chargez l'inconscient. Bon, alors, regarde-t-il le conditionnement humain, la culture, la psychologie humaine? C'est bien évident. Dieu s'intéresse à tout. Ce qui est relatif à l'homme, tout ce qui forme l'homme et qui lui permet d'atteindre des lieux modifiés. Et dans un ordre. Je crois que dans un ordre, on peut dire, en premier lieu, l'intention, tout ce qui est intérieur. En second lieu, le psychisme. En troisième lieu, le milieu. Voilà. L'homme qui gouverne peut-il avoir le même regard? Impossible. Je ne peux pas avoir le regard de Dieu. C'est impossible. Bon, alors, on va regarder, hein, puisque on est parti de là, c'est très bien. L'homme. L'homme chrétien. C'est le chrétien qui est un homme. C'est l'homme qui est capable d'être baptisé. L'homme chrétien à sa vie personnelle. Sa vie personnelle. Il s'épanouit dans sa famille. Et puis qu'il s'épanouit en politique. Travailleur, politique. Quelquefois, le travail et la politique vont ensemble. Quelquefois, c'est trois choses différentes. Bon. Qu'est-ce qui commande sa vie personnelle ? Sa vie personnelle, elle est tout ordonnée par sa prudence. La prudence est premièrement personnelle, transformée par la foi, la charité et l'espérance. Ça, c'est sûr. L'espérance est eschatologique. Un chrétien vit toujours en attendant du retour du Christ. Ça modifie énormément sa prudence. Si bien ce soir, comment arrangez-vous vos affaires? Comme il vient pour tout le monde, ça ne vous inquiète pas beaucoup, parce qu'il n'y aura plus personne pour trafouiller dans vos affaires. Tandis que si vous partez seul, voir comment ça se passe. Les ailes qui se jettent sur le cadavre. Le partage et l'héritage. Ça se passe très très bien en religieuse. Donc, la personne humaine, la prudence, foi, espérance et charité. Il modifie. La foi modifie ma prudence. Et la charité informe ma prudence. Cette prudence personnelle va devenir une prudence familiale, transformée par la charité, grâce au sacrement de mariage. Donc il y a là quelque chose de très particulier. Un père de famille chrétien, ce n'est pas n'importe quel père. Une mère de famille chrétienne, c'est encore mieux. À côté de la vie de famille, il y a la vie religieuse. Je dis ça tout de suite. Et une communauté de vie religieuse. Dans une communauté de vie religieuse, chacun est responsable de tout le bien commun. Vous avez du temps à entrer, mais ça rentre quand même. Chacun est responsable de tout le bien commun. On est devant une démocratie divine, parfaite. Pour que la démocratie marche, il faut la vertu. Pour que la vie religieuse marche, il faut la vertu. Il faut la vertu. Il faut que la justice existe. Et puis il y a la prudence. Et vous êtes en face là de quelque chose qui est commandé directement par la vision béatifique. Donc, qui rejoignent très proche la prudence personnelle. Oui, la prudence personnelle d'un père de famille et la prudence personnelle. Bon. Et sa prudence de père sont très proches. Très proches. Il n'y a pas beaucoup d'aspects artistiques et d'art. Pas beaucoup. Vous avez ensuite. Le travailleur. La prudence du travailleur. La prudence de l'artiste. Puisque comme travailleur, l'artiste. La prudence de l'artiste, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'un artiste est prudent? Comme artiste. Les artistes en tant qu'artistes sont toujours au-delà de la prudence. Ne demandez pas à un artiste d'être prudent. Vous savez, c'est si difficile, une communauté d'artistes. Si difficile. C'est très très difficile. On aurait dû faire ce courrier. Hein. Alors, on aurait fait du bien. Comme que l'artiste regarde une œuvre, son œuvre, c'est pas bien comme ça. Et si un artiste fait une œuvre et qu'il est à côté de quelqu'un qui n'arrive pas à faire une œuvre, il y a une espèce de jalousie artistique. Est-ce que l'œuvre de Troyes dans une communauté artistique, c'est l'œuvre de la communauté? Philosophiquement parlant, non. Alors on peut arroser ça avec de l'huile qui coule sur la barbe d'un hareng et dire, mais oui, c'est l'œuvre de la communauté, vous voyez. C'est pour tout le monde qu'on fait ça. Alors, intervention, l'aspect moral. Un baptême. Je ne sais pas s'il est valable. Très très curieux. C'est une très belle question, ça. Est-ce que l'œuvre de Troyes dans une communauté est-elle l'œuvre de toute la communauté? Il faudrait avoir un cœur où tous sont présents. Alors là, oui. C'est l'œuvre de Troyes. C'est l'œuvre de Troyes. C'est pas l'œuvre de tous. Il n'y a pas de connexion dans les points de vue. Alors vous voyez le conflit constant entre le bien commun des hommes artistes et artistes. Très, très difficile. Vous allez me dire c'est impossible. C'est possible en tout temps qu'il y a l'école. L'école d'art. C'est possible. École d'art. Mais c'est en fonction de l'école d'art qu'il faut comprendre les communs. Comment ça craque?
Oui. Est-ce qu'on peut faire, pendant le cas d'une équipe de travail?
Oui, donc école.
Il y a un aspect école, mais il y a l'aspect...
Réalisation.
Dans la réalisation.
Oui, mais il faut que tout soit là.
L'œuvre de chacun peut être intégrée dans une œuvre commune, dans un aspect architectonique.
Mais architecte. Vous voyez, donc tous coopèrent. Alors, d'accord. Quel est le 3? Et là, je pose un problème. Si tout le monde coopère, on va jouer au théâtre ensemble, on va construire une église ensemble. L'un pensera pour le plan, c'est évident. L'autre prendra la pièce, il croit très fort, il prendra ça, il sera fort, il exécutera. Non, momentanément, je prendrai une œuvre culinaire, ce ne sera pas l'architecte, ce sera un autre. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc, successivement, il y aura un premier, et puis la gradation. Alors là, c'est possible, parce que c'est une œuvre commune. Il faut que tous soient dedans. Alors, l'école permet, et si vous dites une école chrétienne, d'art chrétien, il y a un point de vue chrétien. Alors, vous avez deux biens communs qui chevauchent. Le bien commun de l'école et le bien commun du chrétien. Parce que je ne crois pas qu'il y ait... Est-ce qu'il y a une école d'art chrétien? Mais toutes ces questions-là sont importantes, la question. Il s'agit de voir ça clairement. Est-ce qu'il y a une école d'art chrétien? Oui, je crois qu'il peut y avoir une école d'art chrétien. Et tous ressemblent au même but. Alors à ce moment-là, l'école modifie son bien, une modification, et il reste les hommes qui, tous étant chrétiens, forment une vie commune chrétienne. Mais il ne faut pas que la vie chrétienne l'emporte sur l'école. Ne sont pas moines. Il ne faut pas que l'aspect chrétien l'emporte sur l'école. Mais comme c'est délicat tout ça, c'est pour vous montrer que là, il y a un problème très particulier. C'est la même chose pour les équipes de travail. C'est la même chose. Tant puis une équipe de travail, pour l'équipe de travail, il y a un bien commun qui se fait. Et il y a une prudence en fonction de ce bien commun. Et la prudence n'est pas une prudence chrétienne. Sauf si ce sont des chrétiens qui veulent mener une certaine vie chrétienne. Comme pour la vie religieuse. Dans la vie religieuse, c'est beaucoup plus net. C'est la prudence qui doit être chrétienne pour vivre en commun. Et réaliser en commun. Alors je passe au point de vue politique. Alors, la complexité est beaucoup plus grande. Là vraiment, on est devant un bien commun. Vous voyez, si tous dans un pays étaient chrétiens. Parce qu'il faut, je crois, distinguer les cas. Si tous dans un pays sont chrétiens. Vous voyez, mais différents cas, parce que je crois que la prudence implique ces cas différents. Premièrement, tous chrétiens. Disons, toute famille chrétienne est célibataire. Ils élisent un maire chrétien. Et ils élisent un président de la République chrétien. Ils veulent une cité chrétienne. À ce moment-là, la prudence politique, je dis bien la prudence politique à ce moment-là, va sûrement être informée par la charité. Pourquoi ? Parce que le bien commun, une communauté de chrétiens, à être en vue de la vision béatifique. Permettre de la façon la plus adéquate à chaque membre de cette communauté d'être parfaitement chrétien. Donc le bien commun à ce moment-là est modifié. Il reste spécifiquement le même, parce que le conditionnement humain, c'est le bene vivere. Bien vivre, et ce bien vivre est ordonné à la vision de Dieu. Donc, le côté spécifique de la prudence politique reste le même aspect, mais il est modifié en vue de la vision béatifique. Des lois qui empêcheront que certains films passent et soient libres comme en vue d'éducation chrétienne. Vous pourrez avoir des lois, le carême fait loi pour que tous qui aient d'habitude pour l'usage du bene vivere. Fait que pendant le carême, c'est le vivere tout seul. N'est-ce pas ? Alors, par le fait même, le surplus va pour des états pauvres. Une cité, modèle, extraordinaire. Tout le monde vient la visiter. Il y aura moins de clients, tant pis. Et ça, c'est pour les états. Je prends cet exemple-là parce que c'est plus tangible. On pourrait très bien penser aussi. Les cinémas seront fermés le mardi et le vendredi, puisqu'il y a un jour demain. Donc, les cinémas seront fermés. Pour qu'il puisse y avoir des groupes de prière le soir. Cité chrétienne. Très bien, imaginez ça, parce que je crois que ça n'a jamais existé.
Calvin à Genève, non?
À Calvin, oui, mais ça n'a pas duré. Calvin a essayé. Il a essayé, ça c'est très vrai. Et on comprend très bien avec la perspective de Calvin. Venez. Il y a peut-être aussi en Amérique du Sud, vous voyez, la fameuse chose du père jésuite qui a voulu citer tout à fait catholique. Oui, un état catholique. C'est ça qu'on lui a fait. Je ne dis pas plus. On pourrait se poser la question, est-ce que cela est possible? Est-ce que c'est voulu par le Saint-Jésus? On y reviendra tout à l'heure. Si j'oublie, vous me le rappellerez. Tous chrétiens. Deuxièmement, minorité. Non, majorité chrétienne. Mais il y a une minorité non chrétienne. Je n'ai donc pas le droit de faire des lois qui sont des lois chrétiennes, appliquées à tout le monde. Je respecte. La prudence chrétienne demande un plus grand respect vis-à-vis des autres. Donc, j'ai là un bien commun qui est humain. Et je peux souhaiter à tous de passer un bon carême. Je peux souhaiter à tous une bonne fête de Pâques, de Noël. Mais je ne vais pas faire une discrimination en disant pour les chrétiens ça, pour les autres ça. Non, ce ne serait pas juste. Puisque la question politique, c'est la justice qui commande tout. Tandis qu'ici, c'est la miséricorde. Si tous sont chrétiens, je peux avoir un régime de miséricorde. Si pas tous sont chrétiens, régime de justice. Et alors, à ce moment-là, est-ce que ma prudence politique est informée par la charité? Elle est informée par la charité négativement pour essayer d'empêcher tout ce qui pourrait être en contradiction avec la vie chrétienne. Ça, je peux le faire. Parce que je suis convaincu que tout ce qui est contre le chrétien est contre. À ce moment-là, ma justice, c'est ce qu'on dit de Saint-Louis. Hein. On dit que Saint-Louis était d'une justice, était de pratiquer la justice de façon parfaite. Et que ses lois étaient en fonction de la justice. Évidemment, il y avait des théories très particulières par rapport à l'œcuménisme, c'est sûr, mais... C'était de son temps. On dirait que ça se modifie, c'est normal. On est dans un aspect de conditionnement extérieur. Et là, vous prenez le troisième cas. Alors évidemment, ça ne se pose plus, parce que c'est la minorité. Le chrétien subit un régime qui n'est pas chrétien. Il obéit aux lois justes. Et aux lois qui ne sont pas selon sa conscience de chrétien. Il essaie de ne pas se faire prendre en refusant. Le curé d'Ars avec Napoléon. Pas fait de service militaire. C'est le simple ou ceux qui ne veulent pas faire de service militaire. Coupé comme ça, là, c'est par en dessous. Ben, on comprend très bien. Lorsqu'on est en face d'une loi qui n'est pas conforme à sa conscience, bon, en tant que citoyen, c'est second par rapport à notre vie chrétienne. Donc à ce moment-là, on fait tout ce qu'on peut pour. On vous laisse tranquille. Donc vous voyez, hein, le seul cas où la prudence serait transformée par la charité, ce serait une cité chrétienne. Or, est-ce dans la perspective d'une sagesse divine? Oui.
Il y a quand même la cité du Vatican.
C'est une cité religieuse. C'est le seul cas. Or, étant donné les conséquences du péché originel, n'était-ce pas un certain messianisme temporel de tenter
ça? Quand Jésus demande à consacrer la France,
oui,
au Sacré-Cœur.
Oui, révélation privée. Ce n'est pas dans l'évangile de Saint Jean. Quel dommage. Révélation privée. Théologiquement, c'est pas un argument. On peut en avoir la dévotion si je me place au point de vue théologique. Consacrer un pays au Sacré-Cœur. Fatima qui demande de consacrer tous les pays à le cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas une politique. Parce que vous consacrez chaque individu capable d'être consacré en consacrant le pays. Oui. Vous ne demandez pas à un athée d'adhérer à ça. Qu'est-ce qui ferait ça? Ce seraient les évêques. Cardinal de Courtrai. Ce ne sera pas évident. L'anniversaire des 200 ans de la prise de la Bastille, Mitterrand pris dans l'Esprit Saint. Un amour très particulier achève sa journée comme ça. Oui, ça. Tout le monde dirait, il est fou. Qui est en France, demande de consacrer le pays au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie.
Pourtant, il y a eu, il n'y a pas longtemps, des actes de dévotion faits par un gouvernement.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ici, on se pose la question. C'est dans une perspective théologique qu'il y ait des souverains pieux, chrétiens, et qu'au niveau de la dévotion, souhaitent des quantités, tout à fait d'accord. Soutiennent des pèlerinages, tout à fait d'accord. C'est sûr. Mais je me pose la question, c'est très différent. Au point de vue théologique, pouvons-nous parler d'une prudence politique chrétienne? J'ai dit que c'était du côté de la prudence qui fait la garder la chose. Pouvons-nous parler de loi politique chrétienne?
Oui. La question des apôtres, juste avant l'ascension, quand il pose la question à Jésus, quand est-ce que tu viendras rétablir la royauté en Israël?
C'est autre chose, Israël. Israël, c'est un peuple religieux. Il y a une politique religieuse. Ah, tout à fait d'accord. Et Israël avait une mission unique qui ne peut pas se répéter. Une mission unique. sur un aspect charismatique. Quand vous regardez attentivement la politique d'Israël, vous voyez qu'au fond, c'est une politique religieuse, c'est pas une politique de foi et de charité. Politique religieuse. L'adoration. On maintient l'adoration au seul vrai Dieu. Parce que quand vous regardez les commandements de Dieu, c'est une morale religieuse. Faite pour le peuple. Oui. Et les prophètes seront toujours là pour intérioriser, pour que ça puisse se finaliser par l'intérieur. Alors il y aura la tentation d'un messianisme temporel. Et je crois que cette tentation, elle reprend constamment. Et c'est là où je demande pour Calvin, parce que ce n'est pas la tentation du messianisme temporel. Ce que je croirais. C'est très très délicat. Moi, vous voyez, je ne conclue pas de façon absolue. Je vous dis ce qu'il me semble. Et il faut faire grande attention pour le dire. Grande attention, vous n'avez pas de répéter. Pas de politique chrétienne, pas de politique chrétienne. Il sait comprendre. Y a-t-il un bien commun chrétien? Politique. Spécifiquement chrétien. Je dis non. Il n'est pas un mode. Plus large. Donc ça revient à la prudence. Parce que la prudence, c'est l'usage.
Pas de philosophie.
Dans une politique chrétienne, il faut intervenir.
Point de vue philosophique.
Mais tiens. Autrement, je ne pourrais pas parler. Je peux faire une philosophie des tentations. Comment tu dis la vie des tentations? Pourquoi pas? Je parle avec moi. Madame Amadou, Sorbonne, qui est juive convaincue, qui est une personne très intelligente. Et c'est à travers toute la Bible de découvrir l'anthropologie juive, religieuse. Et je peux très bien, c'est des choses qui me tenteraient, on n'a pas le temps, d'essayer de comprendre la politique donnée à travers le peuple d'Israël. C'est très intéressant. C'est pour vous, vous faire ça, la politique. Mais l'aspect philosophique à travers, j'ai des amis qui ne croient pas, mais qui ont une vénération pour la Bible, en tant que philosophe. Une vénération en disant que c'est le plus grand livre qui existe, au point de vue humain. Et donc, au point de vue philosophique, ça devrait être le livre. Je suis d'accord, du reste. Si on pouvait le faire, on devrait le faire. Ce serait très intéressant, oui.
Parce que la défense légitime de droit des chrétiens peut changer cette statut du bien commun par rapport à la politique.
Bien commun. Le bien commun, ici je prends que toute politique, quel est le fondement de la politique, c'est la justice. Regarde, le fondement d'une communauté politique, c'est la justice. Mais c'était l'erreur de l'abbé Pierre. J'ai été l'écouter plusieurs fois exprès pour me rendre compte un tout petit peu. J'ai écouté quand il est venu à Fribourg. Et alors l'abbé Pierre n'hésitait pas de dire qu'un gouvernement devrait faire ses lois en fonction des plus pauvres. Là, j'avais envie de lui dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de lois, là. Oui, en fonction de ce que le plus pauvre peut faire. Donc, un gouvernement de miséricorde. C'est impossible, humainement parlant. Ça repose sur la justice. Une justice qui, pour le chrétien, est inséparable de la miséricorde. Mais c'est quand même une justice. Et donc le bien commun, fondamentalement, s'enracine dans la justice. Permettre à chaque homme d'avoir son dû, ce qui lui est dû, les droits de l'homme. De l'avoir pleinement. Tandis que la politique religieuse d'une communauté de consacrés à Dieu et chrétienne a comme fondement la miséricorde. C'est pas la justice. Certains voudraient que c'est la justice. C'est faux. Alors, bien entendu, un point de vue politique. C'est la miséricorde. Mais une miséricorde qui doit assumer une justice. Et je ne peux pas, par exemple, c'est la question, si vous voulez, très simple. Anciennement. Anciennement, c'est pas vieux, c'est il y a 50 ans. On acceptait au Carmel. Celle qui pendant tout le noviciat, et comme on disait, avait fait la règle. C'est-à-dire pendant tout le noviciat, une année et un peu plus, 6 mois, avait vécu pleinement la règle. Autrement, on disait non. C'était le point de vue. Alors, une fois qu'on avait fait des vœux simples, la question de santé ne jouait plus. Point de vue droit canon. Mais il fallait à tout prix tenir avec une provision de sucre. N'est-ce pas ? Toujours tenir pour faire l'année de noviciat correctement. Autrement dit, non. Il n'y avait pas la santé. C'est pour ça que la visitation a été établie. Alors ça m'en saute ça. Parce qu'à la visitation, la question santé ne jouait plus. La visitation, avec ça m'en saute ça, a mis avant tout le point de vue de la charité.